À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Jean Charmois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
On continue notre série d'émissions sur les pères de l'Église et les pères syriens, précisément en langue syriaque. Nous avons évoqué Édesse et notamment les deux églises distinctes de l'Église apostolique de l'Orient et l'Église syriaque orthodoxe. Aujourd'hui, vous voulez rentrer plus précisément sur certains noms qui ont marqué cette histoire.
Oui, merci Frédéric. En fait, on avait déjà consacré deux émissions à Ephrem le Syrien, qui est un père du IVe siècle, début du IVe siècle. Et avant Ephrem, il y a quelques figures notables que je propose de parcourir dans cette émission. Il y a Tatien le Syrien, qui est au IIe siècle, donc très très proche des origines du christianisme, qui est un disciple de Justin le philosophe, autre père dont on a parlé aussi dans une émission, Bardézane d'Édesse au IIIe siècle, et enfin Aphraate le Persan à la fin du IIIe siècle. Alors Tatien est né en Assyrie vers 120, mort vers 173, donc quand même d'origine du christianisme. Il pratique d'abord la religion assyrienne, et il est formé à la philosophie grecque. Et il rencontre Justin, qu'on appelle Justin le philosophe à Rome, et il dit « Moi, Tatien, philosophe barbare, je suis né au pays des Assyriens. J'ai été formé dans les doctrines grecques et ensuite dans le christianisme que j'entends maintenant de proclamer. J'ai été admis au mystère, j'ai examiné toutes sortes de rites religieux accomplis par des efféminés et des androgynes, j'ai trouvé chez les Romains le Jupiter latin faisant ses délices de sang humain et ailleurs d'autres démons fomentant des éruptions de méchanceté. » Sous-entendu, le christianisme est enfin la solution de ces errements. Il retourne ensuite dans sa Syrie natale après la mort de Justin. Il y entreprend de rédiger une concordance des évangiles, qui est la première du genre. Et ce Diatessaron, c'est le nom à travers les quatre, ça veut dire, dont l'original est perdu, a été conservé par un commentaire complet qu'en a fait Ephrem le Syrien. Ensuite, Tatien, dans un discours aux Grecs que nous avons conservé, expose un point de vue intéressant. Et il dit, contrairement à la philosophie grecque, notre âme n'est pas immortelle par elle-même. Donc Dieu n'a pas créé Adam de manière immortelle et son immortalité ou sa non-mortalité, elle est liée à la grâce de l'Esprit de Dieu. Et Tatien écrit « L'âme humaine en soi n'est pas immortelle » aux Grecs. Elle est mortelle, mais cette même âme est capable aussi de ne pas mourir. Elle doit ressusciter plus tard à la fin du monde et elle ne meurt pas si elle a acquis la connaissance de Dieu. Ce n'est donc pas l'âme qui sauve l'esprit, mais elle est sauvée par lui.
Maintenant, on va parler de Bardézane d'Édesse. C'est un philosophe et poète chrétien de Syrie. Il est né en 154 à Édesse, mort en 222 dans la même ville. Alors, qui était Bardézane?
Oui, alors Bardézane est à 25 ans. Il se convertit au christianisme en entendant commenter les Écritures. Il devient prêtre dans l'église de la ville. Il a certainement suivi un enseignement de philosophie grecque. Mais surtout, il a été formé à l'astrologie traditionnelle des Babyloniens. Ce qu'il faut voir, c'est que l'astrologie de l'époque n'était pas du tout l'astrologie comme on la connaît aujourd'hui. C'était une astrologie de nature presque philosophique. C'est-à-dire, avec cette astrologie, on construisait l'ensemble de la réflexion sur le monde, sur Dieu et sur l'homme. Après la suppression du royaume d'Édesse par l'empereur Caracalla, Bardézane se réfugie en Arménie. Et il est dénoncé un peu avec virulence comme hérétique par Ephrem le Syrien. Et cette hétérodoxie, cette hérésie, comme le disait Ephrem, explique que presque tous ses écrits aient disparu. Malgré sa grande importance dans l'histoire de la langue syriaque, il a été le premier écrivain dans cette langue. Et d'autre part, en matière de liturgie, on lui attribue l'invention du chant responsorial, avec un refrain qui est repris par la foule des fidèles. plusieurs auteurs chrétiens de langue syriaque dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge vont parler de Bardizan et vont le citer assez longuement. Donc c'est quelqu'un qui est un peu incontournable dans la culture syriaque, à défaut de l'être dans les églises syriaques. Il a composé beaucoup d'hymnes et on a conservé de lui notamment l'hymne de la Perle, qu'on va trouver dans un livre apocryphe. Cet hymne narre les aventures de l'âme qui est envoyée hors de sa patrie céleste sur la terre d'Égypte pour obtenir une perle d'un grand cri, mais qui oublie son origine royale et se la voit rappelée par une parole de son père. Et elle parvient à se revêtir d'un vêtement de lumière pour ramener la perle dans le palais des cieux. On a trouvé de lui aussi un dialogue qu'on a conservé, le livre des lois des pays, un dialogue sur la liberté humaine. Question posée, Dieu ne pouvait-il pas créer l'homme sans péché ? Réponse, l'homme n'aurait été dans ce cas qu'un simple instrument remplissant une fonction, alors que la liberté le rend égal aux anges. Question, le mal vient-il alors de notre nature ? Réponse, non, pas de notre nature, mais du libre arbitre, donc de la liberté de l'homme. Question, le mal ne viendrait-il pas de l'influence des astres ? Réponse, les astres ont un certain pouvoir sur le corps, mais l'âme leur échappe entièrement. Dieu laisse opérer le mal parce qu'il est patient, mais au jugement final, il constituera un nouveau monde dont tout mal sera banni. Alors, Bardizan, formé à la science astrologique des Chaldéens, a cherché à l'accommoder, à l'appliquer au christianisme. Sa philosophie astrologique de base l'a fait considérer comme hérétique, mais la sincérité de son christianisme ne peut pas faire de doute. Il a combattu la plupart des dogmes des gnostiques, Valentin et Marcion, et il a beaucoup écrit pour défendre les chrétiens.
Autre personnage de l'Église, Afrat, le sage persan. Alors, il est originaire de la région de Ninive, Mossoul, aujourd'hui en Irak. Afrat vécut fin du 3e siècle, début du 4e siècle. Il fut responsable d'un monastère, puis il fut consacré évêque. Le qualificatif de persan lui vient de son appartenance à l'empire sassanide perse.
Oui, Afrat, le sage, a écrit beaucoup de discours en syriaque qui traitent de différents thèmes de la vie chrétienne. La foi, l'amour, le jeûne, l'humilité, la prière, la vie ascétique. Également les rapports entre le judaïsme et le christianisme, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors Afrat, comme on l'avait vu pour Ephrem, fait partie d'une communauté qui s'appelait les Fils de l'Alliance. C'est une communauté propre au monde syriaque, assez intéressante parce que c'est une sorte de proto-monachisme qui pourraient se concevoir un petit peu de nos jours dans nos communautés un peu charismatiques, qui assurent la permanence de la liturgie locale, la garde de l'église, le chant des psaumes, la lecture de l'écriture, le catéchisme. C'est une sorte de communauté à la frontière entre le judaïsme et le christianisme, qui est très lié à l'église mère de Jérusalem. Alors Afrat, comme la tradition syriaque, présente le salut accompli par le Christ comme une guérison. Et le Christ est un médecin. Le péché est comme une blessure que seule la pénitence peut guérir. Afrat écrit, « Un homme qui a été blessé lors d'une bataille n'a pas honte de se mettre entre les mains d'un sage médecin. De la même façon, celui qui a été blessé par Satan ne doit pas avoir honte de reconnaître sa faute et de s'éloigner d'elle en demandant le remède de la pénitence. La vie chrétienne est centrée sur l'humilité. La nature de l'homme est humble et c'est Dieu qui l'exalte pour sa propre gloire. L'humilité n'est pas une valeur négative. Abraham écrit « Si la racine de l'homme est plantée dans la terre, ses fruits croissent devant le Seigneur de la grandeur. En restant humble, même au sein de la réalité terrestre dans laquelle on vit, le chrétien peut entrer en relation avec le Seigneur. L'humble est abaissé, mais son cœur s'élève à des hauteurs éminentes. Les yeux de son visage observent la terre et les yeux de l'esprit, les hauteurs éminentes. Dieu s'approche de l'homme qu'il aime, il est juste d'aimer l'humilité et de rester dans la condition d'humilité. Les humbles sont simples, patients, aimés, intègres, droits, expert dans le bien, prudent, serein, sage, calme, pacifique, miséricordieux, prêt à se convertir, bienveillant, profond, pondéré, beau et désirable. Pour Avrahat, la vie chrétienne comporte évidemment une dimension ascétique et spirituelle. Le jeûne va aider à maîtriser les penchants mauvais du corps et à purifier l'âme. Le jeûne pur, écrit-il, est précieux devant Dieu. Il est gardé comme un trésor dans le ciel. Il est une armure contre le malin, un bouclier qui reçoit les traits de l'adversaire. Jeûne de la nourriture, certes, mais aussi jeûne des paroles vaines et détestables, jeûne de la colère, jeûne de la propriété, jeûne du sommeil pour s'appliquer à la prière. Avraham recommande la prière continue. Par cette prière établit un dialogue avec le Sauveur. Elle doit se faire, la prière, dans le recueillement et avec une attention soutenue, dans un état d'éveil permanent. Il dit, par-dessus tout, sois assidu à la prière sans t'enlacer, sois assidu à la veille, éloigne de toi somnolence et lourdeur, sois en éveil jour et nuit sans te décourager. Le silence, conjoint à une conscience sincère, surpasse la voix haute de l'homme qui crie. Maintenant, mon ami, donne-moi ton cœur et ton intelligence et écoute-moi. C'est la prière qui fit cesser le déluge. Elle guérit la stérilité, elle dévoila les mystères, elle fendit la mer, elle ouvrit une brèche dans le Jourdain, elle retint le soleil, immobilisa la lune. La force de la prière pure est tout à fait considérable comme l'est celle du jeûne pur. Et cette prière qui dévoile les mystères introduit l'ascète dans l'état angélique dont l'accès est réservé aux mystiques. Cette prière est en fait le remède à tous les maux et elle guérit les blessures dans le combat parce que l'ascète attend l'arrivée de l'époux. Enfin, une dernière parole d'Aphraat, il écrit « Apporte le réconfort aux accablés, visite les malades, sois plein de sollicitude envers les pauvres, telle est la prière. La prière est bonne et ses œuvres sont belles. La prière est acceptée lorsqu'elle apporte le réconfort au prochain. La prière est écoutée lorsque celle-ci se trouve également avec le pardon des offenses. La prière est forte lorsqu'elle est remplie de la force de Dieu. » Il est certainement mort, Aphraat, dans des terribles persécutions qui sont tombées sur les chrétiens perses au IVe siècle.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.